Maintenant, nous sommes de retour sur le plateau pour discuter avec l'April, et plus précisément avec Lionel Alorgue. Comment tu vas, Lionel?
Très bien, merci.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il faudrait déjà que tout le monde sache un peu ce que c'est que l'April. Bon, on sait tous ce que c'est l'April, mais on va redécrire un peu l'April.
Donc, bonjour, merci de m'avoir invité. L'April, c'est une association de promotion et de défense du logiciel libre qui a maintenant fêté ses 12 ans l'année dernière. Donc, on entame la 13e année. Et c'est au départ une association d'étudiants d'une université de la banlieue parisienne qui s'appelle Paris 8 à Saint-Denis qui ont décidé d'agir pour le libre qui à l'époque était quelque chose qui était encore très naissant et vraiment connu essentiellement de quelques universitaires. Et ils ont fait le pari de le faire connaître à autant de gens que possible, mais viser le grand public. Et donc petit à petit, c'est une association qui s'est développée. Et tellement bien développé que là, on vient de fêter donc notre passage à 5 000 membres il y a peu.
Et donc c'est vrai que l'April, c'est un acteur maintenant qui est devenu incontournable
Il
autour
paraît, oui.
du logiciel libre. Au-delà d'être un acteur déjà important, c'est vraiment devenu quelqu'un que l'on retrouve à chaque action de défense, à chaque évolution du logiciel libre.
Oui, surtout depuis que le logiciel libre a acquis une dimension particulièrement politique avec les lois qui sont vivement critiquées depuis quelques années. Alors justement, bah récemment, quels sont les combats actuels? Parce qu'on avait déjà parlé de DADVSI il y a quelques années, puis on évoquait l'initiative candidat.fr pour les différentes élections. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de boulot à faire.
Oui. Alors historiquement, en fait, au départ, l'April était censé faire de la promotion, c'est-à-dire faire connaître le logiciel libre. Et puis, au cours des années, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de lois qui arrivaient, liées essentiellement à l'arrivée d'Internet, en fait, hein, dans les foyers, qui ont commencé à nous poser des problèmes, pas directement, hein, ce n'était pas des lois contre les logiciels libres, mais c'était des lois qui impactaient les logiciels libres. Donc la première, ça a été il y a 2 ans et demi maintenant, DADVSI, donc le droit d'auteur et droit voisin dans la société de l'information, où là, il y a eu dans cette loi une partie qui interdisait de contourner les mesures techniques de protection, donc ce qu'on appelle les DRM. Et ça avait un effet de bord direct sur les utilisateurs de logiciels libres, c'est qu'on ne pouvait plus lire de DVD sur un ordinateur où il n'y avait que des logiciels libres d'installer, puisqu'on n'avait pas le droit de mettre un petit programme qui permette de contourner le cryptage qui, soi-disant, protège le contenu des DVD. Donc ça, c'est la première loi où vraiment on s'est dit, là, on a un problème avec les logiciels libres et il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, c'est là où on a démarré cette initiative candidat.fr, qui consiste à aller voir les candidats aux futures élections, au moment où ils sont a priori le plus sensibles à l'écoute hein, de leurs électeurs, c'est-à-dire le moment où ils se présentent, où ils candidatent, et on en profite pour aller les voir, leur parler des logiciels libres, parce que pour beaucoup, ce sont des gens qui ne connaissent pas le logiciel libre, ils en ont même souvent jamais entendu parler. Beaucoup, déjà, ont une pratique très faible, voire nulle de l'informatique, donc il faut déjà leur donner quelques grandes lignes. Et donc, on leur a préparé un pacte du logiciel libre qui tient en une demi-page, qui est rédigé de manière très, très simple, enfin, autant qu'on a pu, compréhensible par tout le monde, sur donc ce pacte. Ceux qui acceptent de le signer s'engagent à agir en faveur des logiciels libres. Donc c'est quelque chose de très simple qu'on peut aller expliquer aux candidats, les encourager à le signer. Et au fur et à mesure des différentes élections, on a obtenu pas mal de signatures. On a notamment plus de 60 députés, par exemple, français, qui l'ont signé, ce qui représente quand même presque un dixième de l'Assemblée nationale. Enfin voilà. Donc par ce biais-là, on s'est impliqué en politique, j'allais dire à notre corps défendant, parce que comme beaucoup de geeks, la politique, c'est quelque chose qui nous semblait très, très lointain, voire complètement alien. Et en fait, on a été obligé de se forcer un petit peu à faire ça.
Alors justement, est-ce que vous trouvez que vous avez des points similaires de pensée avec le Parti Pirate en Suède qui arrive à fédérer vraiment du monde et à avoir une crédibilité politique, envisager même de créer un vrai parti?
Oui. Alors, on n'a pas de, il n'y a pas de connexion directe avec le Parti Pirate. Parce que le Parti Pirate, ce sont des gens qui souhaitent diffuser une manière alternative de voir la culture. Hein. C'est une culture, on va dire, libre, même si c'est difficile de définir exactement ce que ça veut dire libre. Et on a un deuxième problème, nous, avec le parti pirate, c'est qu'on n'aime pas le mot pirate. Parce que c'est vraiment un mot qui nous a été imposé, je dirais, par les gens qui souhaitaient au contraire limiter nos libertés numériques. Donc le principe est bien, on est surpris du succès qu'ils ont eu, puisqu'ils ont eu un député européen, si j'ai bien compris. Il y a quelques tentatives en France de créer un parti équivalent, je ne sais pas ce qu'elles donneront, mais ce n'est pas le cœur du problème des logiciels libres. Normalement, le logiciel libre ne devrait pas être impacté par ce genre de problème, et au contraire, on l'aime, et souvent par effet de bord. Et si on peut dire deux mots de la loi Hadopi qui est en train de qui vient d'être votée dans une première version, retoquée en partie par le Conseil constitutionnel et qui là revient dans une deuxième version qui s'appelle Hadopi 2, c'était l'idée que pour que les gens ne soient pas accusés d'avoir fait du téléchargement illégal, on allait leur imposer un petit logiciel mouchard qui allait contrôler ce qu'ils téléchargeaient, de manière à ce qu'ils puissent ensuite dire ah, « Vous voyez, ce n'est pas moi qui ai téléchargé les contenus dont on me reproche la possession ». Et ça impacte le logiciel libre parce que ces mouchards ne peuvent pas être des logiciels libres. C'est vraiment inverse à la philosophie même de logiciels libres. Et si on en crée des logiciels libres mouchards, ils seraient contournés dans la seconde. Il suffirait que quelqu'un ait modifié le code, le recompile, et on aurait une version inefficace du mouchard. Donc ça, nous, on ne veut pas qu'une loi nous impose sur nos ordinateurs, dont on essaye de faire en sorte qu'ils soient libres, on ne veut pas se faire imposer un mouchard non libre. Donc c'est vraiment par des effets de bord que ça impacte le logiciel libre.
Donc la philosophie de l'April est bien toujours de rester fidèle avec une philosophie du libre, parce que d'habitude les gens, quand je discute un peu autour de moi, se disent bon ben voilà, les gens défendent le pouvoir et l'objectif de l'April est de promouvoir le logiciel libre, mais les gens s'arrêtent au libre en général, donc la liberté de télécharger tout ça, mais on remarque bien dans un discours que c'est l'objectif, c'est de défendre un logiciel libre, parce qu'une histoire de loi de vérification de téléchargement impacte forcément le logiciel libre, mais pas forcément sur le domaine le plus visible. Est-ce que dans vos habitudes de communication, vous avez été souvent mal compris, justement, dans votre démarche de vouloir défendre le logiciel libre, puisque votre démarche est bien de défendre une partie du logiciel et pas la liberté de faire ce qu'on veut. Est-ce que vous avez souvent été mal compris dans ce domaine-là ?
Oui, mais ça date dès les débuts. Il y a eu un problème. Dès qu'on a combattu la loi des ADVSI, on s'est fait traiter donc, de pirates, par exemple, parce que les gens comprennent mal, et il faut faire l'effort de leur expliquer qu'on peut faire des logiciels qui soient à la fois libres et gratuits, et que pourtant ceux qui les font arrivent à en vivre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on distribue des logiciels gratuits qu'on les a volés à quelqu'un d'autre. Contrairement à ce que font certaines personnes qui vont vous vendre ou vous donner des copies de logiciels propriétaires. Donc les gens qui font du logiciel libre arrivent à en vivre, et il y a un modèle économique du logiciel libre. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'entreprises aujourd'hui qui arrivent à vivre et même à faire des bénéfices uniquement avec des logiciels libres. Donc cette partie de décorréler le fait que ça puisse être gratuit pour les utilisateurs finaux, mais que quand même on peut gagner sa vie avec, ça fait qu'on est parfois assimilé à ces notions de pirates, de gens qui copient, même si je dis bien le terme pirate, on essaye de l'éviter parce que c'est vraiment très, très connoté très négativement. Excusez-moi, l'idée, c'est vraiment de dire que les gens qui font des logiciels libres, c'est pour beaucoup des professionnels de l'informatique, et c'est des gens qui le font pour des raisons éthiques. Et ce qu'on essaye de mettre en avant à l'April, c'est moins les problématiques techniques de codage, parce que ça nous concerne, nous qui sommes informaticiens, mais pour le grand public, c'est vraiment l'éthique. Et c'est le discours qu'a Richard Stallman lorsqu'il vit en France, où il dit « je définis le logiciel libre par trois mots, liberté, égalité, fraternité ». Il ne parle pas du tout de technique, il dit c'est d'abord une position éthique de collaborer avec les autres, de pouvoir échanger.
Les gens ont trop peu l'habitude de voir lier l'éthique et la technique, parce que ça c'est totalement étranger à la communication habituelle. D'habitude on parle de la science et l'éthique, ça n'a rien à voir. La technique et l'éthique, ça n'a rien à voir. C'est ce que a été ancré dans l'esprit des gens. Donc il faut avouer que ça déroute un peu. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens de lire ou d'écouter? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller de faire pour essayer de comprendre un peu plus la situation d'aujourd'hui?
Alors, il y a une chose à faire pour les gens qui s'intéressent à ça, c'est d'écouter ou de lire un discours de Richard Stallman. Parce que ça reste le gars qui a montré un petit peu la voie. Il est certes critiquable, hein, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui sur tous les points, mais au moins dans ses discours, on a la chance que, donc c'est un Américain, un universitaire américain, on a la chance qu'il s'exprime relativement bien en français. Donc, on peut lire ses discours en français, on peut voir certaines de ses vidéos de conférences en français. Et déjà, ça repose un petit peu les bases de ce que c'est, parce que ça réexplique qu'en fait, ce mouvement des logiciels libres, il vient directement du travail des chercheurs, c'est-à-dire des scientifiques qui utilisaient l'informatique et qui, dans leur travail scientifique, avaient besoin de s'échanger les informations au sens large, c'est-à-dire y compris le code de leur programme, mais aussi le savoir-faire, les méthodes, etc. Et le logiciel libre est directement venu de ça, en fait, de ce travail des scientifiques qui travaillaient en informatique. Et lui, il a fait simplement qu'appliquer ça. Mais quand il a commencé à l'appliquer, il s'est confronté à toutes les grandes sociétés commerciales qui se développaient à ce moment-là, de IBM à Microsoft en passant par Apple, qui, elles, au contraire, avaient intérêt à présenter un modèle très compétitif, très fermé, où l'idée est d'enfermer les utilisateurs dans un logiciel, un ordinateur. Et donc lui a essayé de prendre le contre-pied de ça. Alors, donc vraiment, donc sur notre site, mais sur le site de la FSF.org, il y a vraiment une partie qui s'appelle philosophie, et c'est fait exprès. C'est fait pour expliquer qu'on essaye de se baser sur des principes déjà, et qu'ensuite on découle des actions.
Un des buts de l'April est bien sûr donc de défendre le logiciel libre, c'est ce qu'on aborde depuis le début, mais l'un des autres buts est aussi de promouvoir le logiciel libre. Donc pourquoi prendre le logiciel libre? Quelles sont les actions de l'April dans le domaine de promouvoir le logiciel libre auprès des gens qui n'y s'y ont pas encore mis?
Oui. Alors, l'April est organisée en ce qu'on appelle en groupe de travail. Donc, ce sont des gens qui, par affinité, se mettent ensemble et décident de travailler sur des thèmes. Et on a notamment un thème sur lequel on a fait une réunion de travail ce matin qui s'appelle sensibilisation et qui consiste à créer des documents. Alors, ce sont aussi bien des textes, des affiches. On est en train de travailler sur une vidéo dont le but est de s'adresser au plus grand public, pour essayer de leur présenter l'intérêt du logiciel libre pour eux. Donc ça, c'est un travail qu'on mène de fond, je dirais, en permanence. Moi-même, je donne assez régulièrement des conférences ouvertes au public, en essayant même de les ouvrir au grand public, un peu partout en France, pour présenter un petit peu les grands principes donc qu'on vient d'évoquer, et puis surtout répondre aux questions, parce qu'en fait, quand on parle de ça, ça reste un petit peu théorique. Et les gens ont souvent des questions très, très simples, du style, voilà, bah, comment vous mangez, comment vous gagnez votre vie, voilà, comment ça se fait que vous fassiez ça, quel est le truc, pourquoi vous faites ça, derrière, il n'y a pas un piège, enfin voilà, tout ce genre de choses. Et on essaye de lever donc ces problèmes-là. Mais comme c'est des choses un petit peu complexes, ça demande d'en discuter. C'est-à-dire que si on peut aller sur le site de l'April et lire tous les documents qui y sont, mais ça peut être un peu rébarbatif. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accrocher avec des affiches, des choses comme ça. Et ensuite, sur les stands, par exemple, ici, ou dans des conférences, ou ici, quand on nous invite à la radio, on peut rentrer dans les détails et essayer d'expliquer bien les choses, et surtout de répondre aux questions des gens, en fait.
Depuis quelques années, on observe une évolution quand même du nombre de personnes qui passent sur le logiciel libre et une nette progression des gens. Maintenant, est-ce qu'on peut remarquer qu'aussi cette progression pourrait être plus rapide? Est-ce qu'elle ne serait pas ralentie par le fait qu'il y ait aussi une multiplication des technologies? Il y a une multiplication des possibilités des technologies. Les gens sont peut-être un peu noyés par la technique tout court. Est-ce que ça ne desservirait pas un peu justement la promotion du logiciel libre?
Alors, il y a toujours eu un débat dans la communauté du logiciel libre de savoir si il fallait absolument avoir plusieurs systèmes bureautiques, plusieurs applications pour chaque domaine, etc. Et un certain nombre de gens disent que c'est se disperser. Et nous, on pense qu'au contraire, c'est une des très grandes richesses du logiciel libre. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir tous le même bureau, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les mêmes applicatifs. Et pourtant, un certain nombre d'entre eux fonctionnent très bien. Donc, c'est vraiment une richesse et ça permet d'avoir des applications spécifiques qu'on peut vraiment choisir en fonction de ses propres besoins. Et ça, c'est vraiment une force par rapport à un système monolithique, que ce soit Microsoft ou Apple, qui vous impose toute une série de logiciels et vous n'avez pas vraiment d'alternative. Et ça, nous, il nous semble que cette espèce de monoculture, on va dire, de logiciels, elle est plutôt nuisible. On préfère un espèce de foisonnement, même s'il y a un risque que les gens se perdent un peu. Mais il y a des gens très bien comme celui qui était là juste avant moi, donc Framasoft, qui ont des sites qui sont vraiment faits pour aider les gens et pour les orienter vers les logiciels qui peuvent leur servir. Donc moi, je pense que c'est vraiment une richesse.
Donc la richesse se passe dans la connaissance de tout type de technologie. Oui. On pourrait embringuer sur le sujet de l'éducation, puisque c'est vrai que majoritairement, ce qu'on peut trouver dans les écoles, c'est par exemple la suite bureautique historique que l'on a pu remarquer, oui, qui est Microsoft Office. Mm-hmm. Ça serait un manquement. Il faudrait l'enseigner, bien sûr, parce que beaucoup de gens l'utilisent, mais il faudrait aussi expliquer qu'est-ce que c'est que le logiciel libre, qu'est-ce qui existe comme autre logiciel, afin de casser un certain nombre d'habitudes et de casser une génération enfermée. C'est bien ça l'objectif de votre discours.
Tout à fait.
Vas-y.
Alors en fait, donc on a encore un groupe de travail, hein, puisque c'est notre manière de fonctionner, qui est sur l'éducation. Et le problème, en fait, n'est pas tellement d'enseigner aux gens qu'il existe une alternative à Word, par exemple, si on veut faire du traitement de texte, mais c'est de leur expliquer ce que c'est qu'un traitement de texte. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens, quand ils veulent faire du traitement de texte, ils vont aller, à cause de la vente liée, acheter un ordinateur quelque part dans une grande surface. Forcément, il y aura les systèmes Microsoft d'implémenter, et ils vont se retrouver à utiliser Word. Et l'idée, c'est de ne pas apprendre aux gens à utiliser Word, mais leur apprendre ce que c'est qu'un traitement de texte, à quoi ça sert. Et après, si on leur apprend bien les bases, ils pourront utiliser n'importe quel traitement de texte. Le fait que le bouton ne soit pas au même endroit n'aura aucune importance. C'est exactement comme quand vous passez votre permis de conduire, vous n'apprenez pas à conduire une voiture Renault, vous apprenez à conduire une voiture. Et après, vous saurez vous débrouiller avec toutes les autres voitures. Donc l'idée, c'est vraiment, au niveau de l'enseignement, qu'il ne faut pas enseigner l'usage d'un outil spécifique, mais d'enseigner les bases, par exemple, du traitement de texte, du tableur, etc.
Donc, pour reprendre vos mots, au final, je peux faire une synthèse, vous n'êtes pas parti donc, pour promouvoir le logiciel libre dans une croisade contre le logiciel propriétaire tout court, vous êtes parti contre une croisade contre l'utilisation que d'un seul type de produit, et donc quelque chose qui peut bloquer l'évolution.
Bien sûr, à l'évidence.
Donc, vous voulez apporter de l'objectivité pour éviter que le débat reste complètement sectaire.
C'est-à-dire qu'un des reproches des fois aussi qu'on a au niveau de la communauté du libre, c'est de dire vous êtes anti-Microsoft ou anti-Apple.
Ah oui, voilà. C'est ça. Bon. Ça décrédibilise d'ailleurs beaucoup de débats.
C'est bien ça.
Parce qu'on ne peut pas... Par exemple, en politique, c'est toujours la majorité qui l'emporte. Ouais. Et pourtant, dans le milieu informatique, la majorité, elle est sous Windows.
C'est pire que la majorité. C'est une dictature totale. C'est 95%.
C'est pour ça que quand on a même pas 10% même des informaticiens, ouais, d'ailleurs, hein, qui se battent, qui sont vraiment très militants dans le logiciel, mm-hmm, libre, c'est difficile d'apporter du crédit à ça. Oui. Sauf en étant objectif et en parlant au nom d'un traitement de texte plutôt que de Word, comme vous disiez.
Oui, c'est ça. Alors, nous, on essaye bien de faire attention à ça, c'est-à-dire de ne pas dire Microsoft est le méchant, parce que personne ne peut dire d'ailleurs que dans le futur, Microsoft ne fera pas des logiciels libres. Ils ont commencé même à faire de l'open source, paraît-il. Donc, Apple, c'est pareil. Ils utilisent bien des systèmes, une partie du système BSD dans leur applicatif. Donc, l'idée n'est pas de les stigmatiser en tant qu'entreprise, c'est de dire qu'ils ont enfermé les gens dans cette idée que les gens devaient être dépendants d'un logiciel. Et l'idée, c'est de toute la philosophie des logiciels libres, c'est de rebasculer un certain nombre de libertés vers les utilisateurs et de leur donner. Alors, on a théorisé 4 libertés fondamentales, mais l'explication de Richard Stallman, alors que je peux redonner, hein, c'est liberté d'utiliser, la liberté d'étudier, c'est-à-dire de comprendre comment est fait un logiciel, la liberté de pouvoir le modifier quand on a la capacité de le faire, et puis la possibilité de le redistribuer. Donc ces 4 grandes libertés, elles sont en direction du public. C'est-à-dire que ce sont des informaticiens qui acceptent de céder une partie de leur liberté que leur confère le droit d'auteur envers les utilisateurs. Et après, c'est aux utilisateurs de faire le choix. Et si objectivement, ils constatent que Microsoft Word est meilleur que tel autre logiciel libre et qu'ils souhaitent l'utiliser, mais en connaissance de cause, libre à eux. Mais l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent avoir le choix. Or, on constate actuellement qu'ils n'ont pas le choix. On leur impose ça dès le départ et on leur dit, voilà, c'est la norme, donc vous devez prendre ça. Je ne sais pas si ça répond à ta...
Si, si, ça répond à ma question. On a parlé du côté de défense de l'April, on a parlé du côté promotion. Quels sont les mouvements majeurs que propose l'April? Est-ce que vous avez des actions qui sont à mettre en avant?
Alors, l'action de ces dernières années, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le fait d'avoir fait l'effort de s'impliquer au niveau politique, ce qui n'était pas évident au départ et ce qui nous pose toujours quelques problèmes parce que qui dit s'impliquer au niveau des responsables politiques dit qu'il y a un risque peut-être de récupération. Enfin, il y a un certain nombre de gens qui peuvent s'inquiéter du fait qu'on se mette à être dépendant des responsables politiques. Donc, en interne, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a voulu avoir de nombreux adhérents de manière à pouvoir payer des permanents sans dépendre de subventions. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est ça, c'est-à-dire réunir suffisamment d'argent pour pouvoir payer. Actuellement, on paye 3 permanents, donc des gens qui peuvent suivre les dossiers à long terme, et de faire de manière autonome sans dépendre des subventions d'une région, d'un département, de quelqu'un. Ça nous donne une grande autonomie. Et ça nous permet, on l'espère en tout cas, de pouvoir prendre les décisions qui sont conformes à nos objectifs. Et de manière plus pratique, la dernière élection européenne nous a donné l'occasion d'étendre cette idée du pacte donc du logiciel libre dont je parlais tout à l'heure à toute l'Europe. Alors, pour l'instant, on a surtout été suivi par quelques pays, dont l'Espagne et l'Italie, qui ont fait la même chose chez eux. Donc, ils ont fait des candidats point quelque chose. La Belgique aussi a beaucoup suivi. Il y a eu un candidat point BE qui s'est monté. Et ce qu'on essaye, ce qu'on voudrait, c'est que dans chaque pays européen, il y ait une espèce d'entité un petit peu active de manière nationale, comme l'est l'April en France. Or, actuellement, dans les autres pays européens, on ne voit pas beaucoup de structures émerger qui est actuellement la taille de l'April. Donc, ce qu'on voudrait vraiment, c'est développer ça au niveau européen. Nous, on reste bien sûr sur le domaine français. On travaille un peu avec tout le domaine francophone. On a des contacts en Afrique, au Québec. Mais on voudrait bien que se développe la même chose dans tous les grands pays européens pour qu'on puisse après faire masse au niveau du Parlement européen pour éviter que ces lois, parce que la plupart de ces lois, et notamment la DAD-VSI qui nous est arrivée en France, c'est d'abord une loi européenne. S'appelait le UCD, et c'est cette loi européenne qui après, entre guillemets, nous retombe dessus. Et un des arguments des parlementaires français, c'était de dire, on est obligé de la voter, cette loi, parce que l'Europe nous l'impose. Donc la réflexion de l'April, c'est de dire, essayons de faire masse au niveau de l'Europe pour aller agir directement au niveau du Parlement européen. En face de nous, on a des lobbies, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour défendre les intérêts spécifiques de grandes entreprises. Donc nous, on essaye de faire... Alors malheureusement, il n'y a pas vraiment de mot en français qui traduit ça. En anglais, on dit « advocacy », c'est-à-dire le fait de défendre non pas les intérêts privés d'une entreprise, mais ce qu'on estime être l'intérêt de toute la communauté.
Quand vous dites que vous voulez remonter finalement à la racine, donc là, vous montez à l'Europe, il y a un jour, il va falloir monter peut-être encore plus haut.
Oui.
Est-ce que... Alors, j'allais vous demander, est-ce que vous envisagez d'aller militer même limite au G8? Mais, enfin maintenant c'est le
G20.
Le G20, ouais. Mais d'un autre côté, au G20, à mon avis, le logiciel, c'est vraiment un sujet qui dure une demi-heure sur le débat d'une semaine. Quoi. C'est...
Bien sûr.
Alors, est-ce que ça serait crédible d'aller aussi haut, finalement, pour ne défendre qu'un intérêt informatique qui reste quand même une subtilité pour beaucoup de monde?
Alors, bien sûr, encore une fois, nous, à l'April, on essaye de s'occuper que de logiciels libres parce que c'est le domaine qu'on maîtrise à peu près. On ne veut pas du tout aller, par exemple, sur les notions de liberté numérique parce qu'on ne les maîtrise pas. On attend beaucoup d'autres associations qui prennent le pas sur ces libertés numériques comme la Quadrature du Net est un peu en train de le faire en France. Mais l'idée de remonter au-dessus de l'Europe, ça va être nécessaire dans les accords commerciaux, hein, ce qu'on a appelé le GATT notamment. Parce qu'on s'aperçoit que ces accords commerciaux donnent un poids très fort à la lutte pour la protection des droits d'auteur. Et c'est ces accords cadres de protection du droit d'auteur qui ensuite nous retombent dessus et nous donnent des lois comme la loi Hadopi. C'est vraiment lié à cette protection du droit d'auteur. Et nous, on voudrait inverser un petit peu ça et on aimerait bien une loi d'auteur plus souple. Et notamment, on se dit qu'attendre qu'un logiciel passe dans le domaine public 70 ans après la mort de son auteur, ça ne veut absolument rien dire. C'est dans 70 ans après ma mort, mes logiciels n'auront plus aucun intérêt. La technologie aura tellement avancé que ça ne veut plus rien dire. Donc ce droit d'auteur qui était adapté aux écrits, aux romans, etc., aux pièces de théâtre, on voudrait bien trouver un moyen de l'assouplir pour qu'un logiciel passe dans le domaine public peut-être au bout de 10 ans. Parce que de toute façon, au bout de 10 ans, il est déjà complètement périmé.
Ce qui est déjà beaucoup.
Voilà. Donc il y a une vraie réflexion qui est menée au niveau du droit d'auteur. Et le problème, c'est qu'en face des grandes entreprises, on va citer peut-être Disney, hein, c'est l'effet Disney, a tendance à, au contraire, essayer d'augmenter la durée du droit d'auteur. On nous parle maintenant de 95 ans après la mort de l'auteur. Ouais. Hein, c'est l'effet Mickey Mouse. C'est Disney qui essaye systématiquement de faire en sorte que Mickey Mouse ne passe pas dans le domaine public. Ouais. Et nous, on voudrait au contraire réduire cette durée.
Cette durée-là. Mais, merci beaucoup, Lionel, de nous avoir présenté l'April. Peut-être que tu veux faire une dernière présentation des dernières actions, des derniers trucs que l'April met en avant, un petit message de la part de l'April.
D'accord. Bah, d'abord, merci de m'avoir reçu, c'était très sympa. Ensuite, après les rencontres mondiales du logiciel libre, là, on va préparer à la rentrée plusieurs salons. On sera présent, par exemple, dans des salons très grand public comme la Braderie de Lille. On va essayer aussi d'être présent au Salon de l'éducation. Enfin, on essaie d'être présent sur des grands événements, grand public, pour essayer de toucher un petit peu au-delà du monde des informaticiens. Et voilà, donc toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à faire ça.
Eh bien, merci beaucoup. Je rappelle le site de l'April pour ceux qui souhaiteraient s'informer. C'est www.april.org.